RFI Matin.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud.
L'arrestation d'un oligarque ukrainien proche de Vladimir Poutine a remis en lumière cette caste de milliardaires corrompus. Que sont devenus aujourd'hui les oligarques ukrainiens ?
Eh bien, les oligarques ukrainiens, ils font profil bas depuis le début de l'offensive russe contre leur pays. À l'automne, ils bataillaient ferme à Kiev pour s'opposer à la loi conçue contre eux par Volodymyr Zelensky. Faute de parvenir à les empêcher de s'immiscer constamment dans la vie politique au bénéfice de leurs affaires, le président cherchait à établir une liste pour les répertorier en espérant qu'ils finiraient par s'amender afin d'échapper à l'opprobre public. Pour éviter ce classement infamant, ils devaient cesser de financer la vie politique, renoncer à leurs médias et promettre de ne plus participer aux privatisations. Ils avaient jusqu'au mois de mars pour s'y conformer.
Cette loi anticorruption a été mise entre parenthèses avec la guerre, mais le président ne les a pas oubliés pour autant.
Oui, à la veille de l'offensive russe, le président Zelensky a réuni les dirigeants des plus grandes entreprises du pays. Les plus puissants d'entre eux avaient déjà fui à bord de leur jet privé. Certains sont très vite revenus depuis. Tous ont été sommés de soutenir la cause nationale, ce que le club des oligarques n'avait pas fait en 2014, chacun évoluant alors au gré de son intérêt personnel. Ceux qui étaient établis dans le Donbass sont par exemple très vite basculés dans le camp de Vladimir Poutine. Cette fois, c'est différent, à l'exception donc de Viktor Medvedchuk, ce ressortissant ukrainien très proche du Kremlin, était poursuivi avant le début des hostilités pour le pillage de la Crimée. Il avait disparu des radars et il a été repéré et donc arrêté mardi par les services ukrainiens.
Oui, la majorité des oligarques ukrainiens ont clairement pris position contre la Russie.
Oui, au moins 16 des 20 les plus riches. Ils investissent pour soutenir l'effort de guerre et surtout agissent publiquement dans l'aide humanitaire. C'est le cas entre autres du plus riche d'entre eux, Rinat Akhmetov. Azovstal, son complexe métallurgique de Mariupol, qu'il a d'ailleurs visité récemment, est aujourd'hui le bastion de la résistance ukrainienne. Cet enfant de Donetsk, que longtemps pro-russe, rivalise de déclarations et d'actions caritatives en faveur de son pays depuis le 24 février. Il avait pris ses distances avec la Russie de Poutine dès 2014 et comme ses pairs, c'est alors qu'il a diversifié ses investissements vers l'Ouest. Viktor Pinchuk ou encore Petro Poroshenko, le roi de la confiserie, l'ancien président battu par Zelensky, sont aussi très très véhéments dans leurs discours. Les quatre oligarques détenant les principaux groupes de médias ont mis leurs antennes à la disposition de l'information gouvernementale. D'autres, en revanche, ont disparu. C'est le cas d'Igor Kolomoïski, celui qui a propulsé la carrière du comédien Volodymyr Zelensky, serait dans sa région de Dnipro. Il est connu pour son engagement en faveur de sa région en 2014, mais aussi pour une vaste fraude commise via la private bank qu'il a fondée et qui a été depuis nationalisée.
Est-ce que c'est le patriotisme qui anime ces oligarques ukrainiens ?
Alors oui, sans doute, mais aussi un patriotisme économique, un sens bien compris des affaires. Si leur pays est occupé par la Russie, leurs actifs pourraient être spoliés, détournés par des concurrents potentiels russes, ce qu'ils ont déjà partiellement subi à partir de 2014 dans le Donbass. Et avec leur activisme, aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire une virginité, alors que l'équipe de Volodymyr Zelensky tentait de les mettre au pas sous la pression des bailleurs internationaux.
Et qu'est-ce qui les distingue des oligarques russes ?
D'abord, leur niveau de richesse, il est bien moindre que celui de leur grand frère russe. Et leur rapport au pouvoir, les oligarques russes ont fait fortune sous la présidence de Boris Yeltsin. Ensuite, ils ont été mis au pas par Vladimir Poutine. Leurs affaires sont conditionnées par leur soumission au Kremlin. Tandis qu'en Ukraine, ils sont en mesure de corrompre des députés, des ministres pour satisfaire leurs intérêts. Avant que l'armée russe n'envahisse l'Ukraine, c'était la bataille impossible du président Zelensky.
Merci à vous, Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'économie, chaque matin sur RFI.